Voilà. Donc là, je reviens de Liège, en Belgique, et je vous avais dit qu'on était avec des responsables de réseau d'écoles chrétiennes et pour préparer la rencontre annuelle en janvier au Parlement européen à Bruxelles. Et l'idée, ça fait depuis des années, ben, c'est d'être un soutien, un appui pour les députés chrétiens européens et batailler pour garder la liberté de religion et d'éducation dans nos pays. Donc si vous voulez, c'est quelque chose, c'est une organisation qui est en train de se monter un peu en quelque part. Il y a un aspect de lobby, d'information, de représentation des familles de chacun de nos pays d'Europe pour monter au niveau du Conseil et puis prier aussi dans ce lieu, prier avec les députés. Et mon propos ce matin, pendant que j'étais là-bas, le Seigneur m'a rafraîchi dans une vision pour l'Europe. Et nous qui sommes Alsaciens, membres de Josué, dans ce lieu qui est une école, je voulais raviver quelque chose au niveau de l'espérance par rapport à l'Europe et de notre rôle de sentinelle et d'intercesseur aussi pour ce que Dieu fait en Europe. Nous sommes dans des temps où il y a un individualisme forcené, les gens se replient sur eux-mêmes, les nations se replient sur elles-mêmes. À chaque fois que ça chauffe, la tendance humaine, on se replie sur soi. Voyez, mais Dieu lève un peuple qui veut s'ouvrir. Et quand s'ouvrir à la largeur de son cœur. Et un espoir pour l'Europe, c'est ce que je veux. Vous avez là le tableau c'est le mélange entre le tableau de Van Gogh avec ces fameuses étoiles qui nous parlent d'espérance dans la nuit. Et Van Gogh était un chrétien qui avait soif de Dieu, un évangéliste aussi des mineurs, et qui il a eu du mal à vivre cette tension entre une vision de Dieu qui est bon, qui est saint, et puis la réalité du terrain. Et sa réalité, c'était les mineurs, les mines, les familles pauvres, la détresse, etc. Et donc, il a traduit dans ses peintures cette espérance qui reste, les étoiles qui brillent, et puis en même temps, ben la nuit, dans la nuit. Et donc, l'Europe, c'est un peu ça. Et donc j'aimerais vous inviter dans cela. Donc j'aimerais redonner le fondement de l'espérance. J'en ai déjà parlé au niveau de l'Église. J'aimerais le redonner ce matin parce que c'est lié. L'espérance pour l'école, le premier mot, c'est espérance. Et c'est le Romains chapitre 4, versets 17 à 18. Et on veut le lire. « Je t'ai établi père, c'est Abraham, hein, père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Je trouve que c'est intéressant dans ce texte, imaginez quand même le contexte. Abraham a quitté son pays, il a quitté ses repères, il ne sait même pas où il va aller. Et Dieu lui dit, tu auras une grande postérité. Il fallait croire. Hein. Mettez-vous à sa place. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de pays. Il sortait de tout ce qu'il avait connu. Et il marchait vers quelque chose d'inconnu. Et Dieu lui dit, voilà, tu vas être un père. L'intéressant ici, c'est Dieu qui lui dit, tu seras un père. Et je crois que Dieu nous appelle, bien sûr, à être des pères et des mères. Mais est-ce que et Dieu nous dit qu'en tant que chrétien, tous ici, nous bénéficions d'un héritage. Et cet héritage, c'est l'héritage d'Abraham. Si on est chrétien, on a l'héritage d'Abraham. Et l'héritage d'Abraham, c'est une paternité pour les nations. Vous allez me dire, mais moi déjà avec les difficultés que j'ai quotidiennes, mes soucis, mes machins, mais même Dieu, quand il touche une vie, il dit maintenant tu es mon fils, je te donne l'héritage d'Abraham, je veux faire de toi un père et une mère. Là où tu es, dans ta famille, avec tes enfants, dans ta ville, dans ton pays et dans les nations. Et ça c'est assez extraordinaire cet appel d'Abraham. Et puis Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et là, donc, il y a des choses qu'on espère. C'est-à-dire que si tu n'espères plus, il n'y a plus de foi. Les deux sont liés. On va le voir un petit peu. Espère en l'Éternel, psaume 37, garde sa voie et il t'élèvera. pour que tu possèdes le pays. L'espérant, Dieu veut raviver notre espérance aujourd'hui. Il veut la raviver. Et le but, c'est, alors posséder le pays, si c'est pas le posséder, c'est pas les croisades, hein, mais c'est l'influencer. Tu vas être sel et lumière. 1 Corinthiens 13, trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, la charité. La charité, c'est l'amour en action, hein. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc voilà, l'espérance, il a espéré contre toute espérance. Je rappelle, c'est un flashback, hein, on l'a déjà dit dans l'église, mais j'aimerais rappeler, l'espoir humain, c'est pas grand chose à voir avec l'espérance chrétienne. L'espoir, on parle du présent, je rappelle, hein, excusez-moi de vous rappeler, mais je pense que Dieu est en train de souligner ça en ce moment, alors qu'il y a une guerre en Ukraine, alors qu'il y a de la guerre en Israël. Dieu souligne l'importance de l'espérance aujourd'hui. Et vraiment, donc l'espoir, il part du présent et on se projette dans le futur. Voilà, on va faire des projets, on va avoir des vacances, on va faire tel investissement, on va, vous voyez, on aura des enfants, voilà. On projette. Et il y a des bonnes projections, et c'est bien. Mais c'est pas l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, elle part de l'avenir. Elle parle de ce que Dieu a promis. Et l'avenir, on va réinventer notre présent. Jérémie, quand il a eu cette parole, rappelez-vous, j'ai pour toi des projets d'espérance et de paix, et non de malheur. Il a eu cette parole en situation de dévastation totale. Israël qui était complètement ravagé. La ville où il était encerclée. C'était foutu. Et Dieu lui dit, j'ai des projets d'espérance. Donc l'espérance, quand Dieu donne l'espérance, c'est jamais en relation avec les circonstances. Donc l'espérance, elle parle de l'avenir. L'espérance, l'espoir, il prend nos désirs, nos aspirations, nos envies. Il sera toujours déçu un moment. Mais l'espérance, elle prend appui dans la foi, dans la victoire de la vie et dans la promesse de Dieu qui a promis de réconcilier toutes choses avec lui-même. Ça, il l'a dit. Donc ce qu'il a commencé en nous, en toi, par la nouvelle naissance, en fait, c'est un processus qui ne s'arrête pas et qui veut déborder de nous cette vie du ressuscité jusque dans tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on prie. L'espoir s'appuie sur les rêves qu'on se fabrique. Le petit espoir, mais l'espérance, ça s'appuie sur les rêves de Dieu. Et il a démontré sa puissance dans la victoire de la mort, sur la mort. Donc, espérance et foi chez Abraham, je reprends l'exemple d'Abraham, il a espéré contre toute espérance, et donc il a cru. La foi et l'espérance chez Abraham, c'est très important. Et donc chez nous aussi, c'est pas seulement, on n'est pas seulement appelé à être un peuple de foi, mais un peuple d'espérance. Et donc, l'espérant, quand Dieu lui dit, je vais multiplier ta postérité comme les étoiles, comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Et ensuite, donc ça c'est l'espérance, c'est la grande image. Est-ce que dans ton cœur, aujourd'hui, il y a encore une grande image, un grand rêve? Ou alors, est-ce que les difficultés de la vie, les souffrances, les épreuves, les soucis, ont enlevé la grande image? Et attention, parce que quand la grande image s'en va, le grand rêve, la foi est entamée. Ça commence toujours comme ça. Donc, Abraham, l'espérance, il capte cette espérance et donc il a cru. Donc ça c'est la foi. C'est-à-dire quand Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai, il y est allé, il a marché. Donc la foi c'est, vous voyez, je marche. C'est dans le quotidien. Je marche par la foi. Mais je vais vers... Et ça, c'est l'espérance. Et donc, les deux sont liés. Et quand il lui a dit, le Seigneur, il lui a montré une cité. Une cité céleste qui descendra sur la terre. Il a vu cette cité, Abraham. Il a vu le royaume de Dieu, en fait. Ce royaume de Dieu que Dieu a promis qu'il allait venir. Et donc, il a vu ce royaume. Ça a nourri son espérance. Et quand il lui a dit, va offrir ton sacrifice, ça, c'est la foi. On a chanté tout à l'heure, je m'offre comme un sacrifice. Ça, c'est la marche de foi, vous voyez. Mais pourquoi je le fais? Pourquoi? C'est pas le sacrifice pour le sacrifice. C'est le sacrifice parce que j'ai l'espérance que ce sacrifice de Jésus et le mien en me donnant à Jésus, eh bien, contribue à accomplir le projet total de Dieu pour le rétablissement. Donc pour accomplir nos missions, vos missions en tant que papa, maman, fils de Dieu, et vos missions individuelles, mais nos missions collectives en tant que Josué aussi, en tant qu'Église de France, on a besoin des deux, de l'espoir, grand E, et de la foi, grand F. Bien sûr, avec l'amour, mais je ne vais pas tout décliner aujourd'hui. Donc, cette espérance, elle nourrit mon cœur, et elle va toucher les yeux de mon cœur. Cette espérance, l'espérance chrétienne, c'est une façon de voir autrement. Et là, vous avez un œil, c'est voir le monde avec les Écritures. Et là, j'aimerais un truc tout simple à retirer de ce message, mais l'espérance ne peut pas être nourrie en dehors de la parole de Dieu. Moi, vous savez qu'au niveau des statistiques, on lit de moins en moins la Bible. Eh bien, c'est pas étonnant s'il y a de moins en moins d'espérance, et si nos regards, on n'arrive pas à voir comme Dieu voit. Et on commence à voir ce que le monde voit. Guerre, bruit de guerre, ébranlement, etc. Vous voyez ? Mais Dieu dit, prends du temps. Et tout à l'heure, dans la louange, il y avait un appel à venir dans la présence de Dieu, dans son intimité. Et donc, voir comme Dieu voit, c'est quoi ? C'est des formations qu'on donne aussi au niveau des enseignants, mais c'est pour tout chrétien. C'est-à-dire, dans tous les domaines, par exemple, si tu es engagé, je ne sais pas moi, dans tout ce qui est, on a des agriculteurs, avec, mettons l'agriculture, les médias, c'est quoi le projet initial de Dieu ? En créant l'univers, en créant la création, en créant ce domaine de la création, dans lequel tu es investi, c'est quoi le projet de Dieu initial ? Qu'est-ce qu'il a créé ? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comment ça a été touché, ébranlé par le péché ? Comment la marque du péché est venue ? Dans l'économie, par exemple, dans la politique, dans l'éducation, voyez ? Mais il y en a qui s'arrêtent là. Ils voient cette marque du péché, ils baissent les bras, ils disent c'est foutu. Ou alors on va essayer de sauver les meubles, voyez ? On n'a pas la vision de Dieu. La vision de Dieu ne s'arrête pas là. On voit bien les effets du diable, les dégâts. On les voit, on n'est pas aveugle en tant que chrétien. Mais notre regard, il est plus que ça. Parce qu'il commence à voir le projet de rédemption de Dieu. Et donc, c'est quand tu commences à voir ce que Dieu a fait. Il est mort et ressuscité pour réconcilier tout avec lui-même. Donc, tout d'un coup, tu commences à voir les choses comme... Ben Dieu rachète la création. Son sang est suffisant pour relever tout ce qui est en ruine. Et quand tu commences à voir comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben tu vas te lever dans le domaine où tu es pour être non seulement un chrétien réconcilié avec Dieu, mais pour être un chrétien qui amène la réconciliation là où il est. Une autre façon de voir, une autre façon d'agir. On est beaucoup impliqué dans le domaine de l'éducation, mais c'est vrai pour tous les autres domaines. Et donc, on est animé par l'espérance. Donc l'espérance, c'est carrément, on voit que finalement, le Dieu de l'histoire, c'est lui qui termine l'histoire. Et c'est lui qui va restaurer toute chose. Et donc nous sommes aujourd'hui dans cette tension en tant que chrétiens, entre un moment où Jésus est venu, il a manifesté qu'il est ressuscité, qu'il a brisé la mort, qu'il amène le royaume de Dieu à toucher la terre, sa résurrection, donc c'est déjà là, c'est en cours, mais c'est pas encore manifesté totalement, et donc on est entre le déjà là et le pas encore complètement là. Et cette tension, elle n'est pas facile à vivre toujours. La foi, la maturité chrétienne, c'est Bonhoeffer qui dit ça, je répète, hein, mais c'est vivre cette tension, être cette capacité de vivre cette tension entre la réalité quotidienne des choses et des nations, et le rêve et la promesse de Dieu. Ça fait une sacrée tension. Et quand tu pètes un câble, c'est-à-dire que la tension est trop forte, tu ne supportes plus, et bien quand tu pètes un câble, il n'y a plus d'espérance. Et tu n'es plus le sel et la lumière. En fait, quand tu pries notre Père, que ton règne vienne, c'est-à-dire que tu vois ce règne, tu as vu quelque chose de ce règne, dans un des domaines de la création, tu as vu ce règne de Dieu dans les relations humaines, etc. Tu as vu quelque chose. Et tu aspires à ce que ce règne y vienne, voyez. Donc voilà, l'esprit d'Élie Alors, il est dit dans les Écritures, on connaît ce texte, hein, Malachie, chapitre 4, « Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de pères que je ne frappais le pays. » On retrouve cette même parole dans Luc 1. « Il sera rempli, c'est Jean-Baptiste, de l'Esprit-Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit, la puissance d'Élie. » Encore une fois, pourquoi ? Pour amener le cœur des pères vers les enfants, des rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc ici, alors nous, quand on parle de cœur de père, le cœur de père et des enfants, on pense à la famille. Et c'est vrai aussi. Mais dans le contexte, il s'agit de les pères, il s'agit des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Revenir à la source de la foi. Revenir au père de la foi. Revenir à Israël. Et donc, dans Matthieu 10, les disciples ils posent la question à Jésus. Ils disent, mais est-ce que Élie doit venir, revenir, etc. Et Jésus dit, il est vrai qu'Élie doit venir. Il doit rétablir toute chose. Donc ça, c'est une parenthèse par rapport à l'espérance. Mais l'espérance, Dieu dit, quand on se retourne vers nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, Israël, la parole de Dieu, quoi. Les apôtres, nos pères dans la foi, eh bien, il y a un processus de restauration de toute chose. Donc, c'est vraiment intéressant. Et je crois que l'Église aujourd'hui, avec un cœur pour Israël, ça annonce et ça permet le rétablissement de toute chose. Donc tout est lié là. L'esprit d'Élie ramène le cœur des enfants. Nous sommes les enfants, les nouveaux convertis des nations. On est les enfants, hein, on est les fils pas aînés. Mais Dieu dit, tu reviens vers tes pères. Reviens vers tes pères. Et reviens vers le Père. Bien sûr, le premier, c'est Dieu lui-même. Donc l'espérance, vous voyez, elle affecte notre présent. En fait, ton présent est teinté de l'espérance que tu portes en toi. Donc elle est en lien avec les choses à venir, mais c'est un effet immédiat. L'apôtre Paul, regardez, acte 23, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Donc lui, il a chopé, à cause de l'espérance qui était en lui, c'était pas facile, il était persécuté. 1 Timothée 4, nous travaillons en effet, nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. J'inverse la phrase. T'as plus d'espérance, qu'est-ce qui se passe? Tu combats plus, tu ne travailles plus. C'est terminé. T'arrêtes. Pap, stand-by. Et alors, dans le meilleur des cas, tu vas t'occuper de toi. Et voilà, on recroqueville. Mais Dieu dit, je veux raviver l'espérance. Il est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Donc, mets ton espérance dans le Dieu vivant, ravive cette espérance, laisse-la raviver par Dieu et tu vas te mettre à travailler. Non pas le travail avec nos propres forces, hein, mais rentrer dans la mission de Dieu. C'est un travail qui correspond à nos dons. C'est pas un travail difficile. C'est un travail qui simplement libère tout ce que Dieu t'a préparé en toi et t'a donné. Voyez, donc il faut que l'espérance soit ravivée en tant qu'Église, et l'espérance soit ravivée. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous sommes dans un peu de la tension avec nos bâtiments et tout ça, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est bien plus large que ça. Et donc, voyons là où Dieu regarde. Les dimensions, c'est comme le salut. La Bible parle du salut. Je sais pas, quand tu entends le mot salut, je sais pas à quoi tu penses, mais tu dis, voilà, j'ai été sauvé, Jésus m'a sauvé. À telle date, j'ai rencontré Jésus, j'ai été réconcilié. Ça, c'est la dimension passée du salut. Mais une dimension présente, la parole qui dit, il me sauve de toutes mes détresses. Ça, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Donc, Dieu me sauve maintenant. Aujourd'hui, chaque jour, il me sauve. C'est la dimension du salut présente. Et puis à la dimension du salut futur. Romains 8, c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est étonnant, hein? Il y a les trois dimensions du salut, hein? Donc, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais c'est une espérance que nous ne voyons pas. Nous l'attendons avec persévérance. Il y a des tas de choses que Dieu veut nous faire voir dans la foi. Et afin qu'on l'attende avec espérance. Et voyez, nous comprenons que cela a un rapport très important avec des réalités comme la maladie et même la mort. Hein. En un sens, on pourrait dire ceci, la foi en vue de la guérison, l'espérance en vue de la résurrection. La foi, c'est je prie pour les malades. Et je prie pour les malades, je prie pour les perdus. Et je vais être un instrument de salut maintenant. Mais l'espérance, c'est qu'il y a plus que la guérison. Il y a la résurrection. Résurrection des corps, résurrection des morts, résurrection de tout, de toutes choses. Ça, c'est l'espérance. Alors, la foi et l'espérance dans la vie de Jésus, rappelez-vous, Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, séparation d'avec Dieu, il a méprisé la honte, il a, en vue de la joie qui lui était réservée, ça c'est l'espérance. Donc en fait, plus grande est l'espérance, plus tu es prêt à traverser des choses qui sont parfois pas faciles. Parce que c'est l'espérance. Et Dieu dit, voilà, c'est pas une option. L'espérance va demeurer éternellement. L'amour va demeurer. La foi va demeurer. Donc les trois choses sont importantes. Elles se nourrissent mutuellement. Donc il a eu cette joie, il a vu cette joie, et il a vu le fruit de son travail de rédemption. Il l'a vu, il vous a vu, il m'a vu. Il nous a vu. Quand il a passé par la mort, il nous a vu. Et ça, c'était l'espérance qu'il a fait passer au travers de tout ça. Lorsqu'il dit « Je serai avec vous tous les jours », ça, c'est la foi jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est l'espérance. Donc, les deux s'articulent. Alors maintenant, nos prières, bien sûr, doivent être motivées par l'espérance. Et donc, le tombeau est vide, on le sait, et j'ai bien aimé cette définition, l'espérance... C'est quand la pierre qui bouche ma vision de l'avenir, elle a été roulée. C'est beau ça. Il y a des pierres qui, de tombeaux quoi, que Dieu veut faire sauter. Il y a des parties parfois de nous qui sont dans des tombeaux. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas de perspective. Mais Dieu dit, attends, je suis ressuscité. La pierre qui est là, je la roule. Hein. D'accord. Donc, s'il y a une pierre entre toi et l'avenir... Dieu veut la rouler. Parce que la puissance de résurrection qui était à l'action il y a 2000 ans, elle est là aujourd'hui. Et le Seigneur ressuscité, il vit en toi. Donc la résurrection, c'est bien sûr cette source d'espérance. La résurrection ne signifie pas échapper au monde, mais recevoir une mission pour le monde sur la base d'un Seigneur qui est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ça, c'est l'espérance. On prie plus pareil. Et le monde nouveau, il a installé ses avant-postes. Tu as un avant-poste, tu es né de nouveau. Donc, il y a quelque chose du ciel qui est en toi. Et donc, ça, tu as un avant-poste du royaume de Dieu sur cette terre. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. T'es un avant-poste. Tiens, je savais pas que j'étais un... J'ai vu que j'étais un pote, mais un avant-poste, je savais pas. Eh ben voilà, t'es un avant-poste de Dieu, t'es un héritage de Dieu aujourd'hui. Rappelez-vous, c'est... je l'ai déjà cité ça ici, mais je le relis, c'est de cet homme, N.T. Wright, l'objectif que poursuivait Jésus par ses actes, de démontrer que son action immédiate dans le présent était la démonstration concrète de ce qu'il promettait à long terme pour le futur et ce qu'il promettait pour l'avenir tout en le réalisant déjà dans le présent ne consistait pas à sauver des âmes en vue d'une éternité désincarnée, être des petits angelots, les fessus, joufflus, qui vont flotter dans l'air. C'est pas l'avenir du chrétien, ça. C'est pas l'avenir du chrétien. Voilà. Mais à secourir les gens de la corruption, de la dégradation, de l'état actuel du monde, afin qu'ils puissent profiter déjà dans le présent du renouvellement de la création, qui constitue l'objectif ultime de Dieu, et qu'ainsi ils puissent participer activement à ce grand projet, en tant que collaborateurs et partenaires. Donc l'idée, voyez, c'est que Dieu nous donne une mission, et cette mission, ça accompagne sa mission de rédemption. Et Dieu, le livre ici, c'est surpris par l'espérance. C'est-à-dire qu'il y a l'espérance de Dieu, il veut qu'elle soit nôtre. Et je rappelle aussi ce qu'il a dit, ce que vous faites dans le présent, par la peinture, la prédication, le chant, la couture, La prière, l'enseignement, la construction d'hôpitaux, l'installation de puits, l'engagement en faveur de la justice, la composition de poèmes, les soins des nécessiteux, l'amour du prochain comme soi-même, toutes ces choses se poursuivront dans l'avenir de Dieu. Ce ne sont pas seulement des moyens de rendre la vie présente moins pénible, un peu plus supportable, jusqu'au jour où nous pourrons quitter ce monde pour laisser nos peines derrière nous. De tels actes font partie de ce que nous pouvons appeler la construction du royaume de Dieu. Rappelez-vous, je l'ai déjà partagé ça dans un message. Mais donc le moindre de tes actes, aujourd'hui, que tu fais dans l'espérance, inspiré par Dieu, c'est un acte qui va demeurer pour l'éternité, qui a des répercussions pour l'éternité. Ça donne un sens à ce que tu fais. Ça donne un sens à ce que tu fais. Voyez. Donc ensuite, une nouvelle vision du monde est possible, bien sûr. Et regardez les prophètes. Regardez Ésaïe. Ésaïe, c'est un exemple magistral. La terre sera remplie de la connaissance d'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Quand vous regardez le contexte d'Ésaïe, tu te dis, ben mon gars, t'es un rêveur, hein. T'es sûr, là, t'es pas en train d'être flayé un petit peu. Mais non, il a vu le projet de Dieu. Et Ésaïe 65, « Je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, réjouissez-vous plutôt, soyez dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. » Waouh ! Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi les enfants, à l'école, ils aiment tant la récréation ? Parce que ça nous parle de la recréation. Non, je blague un peu, mais le mot récréation, c'est recréation. Dieu veut recréer toute chose. Et vous voyez cette image avec ce pinceau, tu as un pinceau dans les mains et tu peux recréer avec Dieu. Ce monde qui était touché, marqué par le mal et le péché, tu peux amener ton coup de pinceau. La vie d'un homme, c'est peut-être comparé à un coup de pinceau dans le tableau que Dieu fait, de restauration de toutes choses. Donc il a vu, le loup, l'agneau, paître ensemble, le lion avec le bœuf, mangera de la paille, le serpent aura la poussière pour nourriture. Donc les cieux sont à l'Éternel, oui, c'est bien, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et donc notre vocation sur cette terre, elle est drôlement importante. Et j'ai noté ceci, notre vocation de témoin consiste à décrire le monde, non pas seulement comme il devrait être, ni même comme il est, mais comme par la grâce de Dieu, il sera un jour. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est la puissance du chrétien. C'est-à-dire par ses actes, s'il est un artiste par son art, s'il est un politicien par sa politique, s'il est un économiste par son système économique, s'il est un éducateur par sa façon d'éduquer, eh bien, il montre le monde de Dieu tel qu'il sera un jour. C'est quand même, c'est pas rien. Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes le sel et la lumière du monde. C'est la même chose, dit autrement. Donc, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc ça, c'est quelques rappels. Et puis rassurez-vous, ça va pas être très long. Maintenant, j'aimerais parler de l'Europe. Pour que nous soyons une église fortifiée dans l'espérance. Là, David, tu reconnais peut-être une image de toi. Il y a des photos de David Lee que j'ai mises dedans. Donc, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Et maintenant, dans les minutes qui restent, on va faire ça. On va se tourner vers les anciens sentiers, vers l'Europe, pour avoir une vision pour l'avenir. Donc, le but des anciens sentiers, c'est trouver le repos, c'est trouver la paix, mais c'est trouver un projet de Dieu aussi. L'Europe, la première fois que le mot « Europe » a été prononcé, c'est nous sommes au VIe siècle après Jésus-Christ. C'est Colomban, Saint Colomban, un des premiers moines irlandais. Je vous rappelle, hein, ces moines irlandais, on peut les appeler les fous de Dieu, une poignée d'hommes qui ont reçu, qui avaient une prière 24 heures sur 24, dans la louange, dans l'adoration. Et un jour, Dieu leur dit, go en Europe maintenant, allez toucher l'Europe. Il faut l'évangéliser, il faut tout faire, il faut tout refaire, parce que tout avait été détruit par les invasions barbares, etc. Et ils sont partis. Ils avaient un rêve. Ils avaient vu l'Europe sauvée. Et donc, quand Colomban parle de Totus Europa, c'est la première fois que le mot Europe apparaît. Et donc, ils vont fonder monastères en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, à Murbach, ici à côté, des réseaux économiques, parce que c'était des trucs économiques, hein, c'était des champs, c'était de la culture, c'était de l'agriculture, c'était c'était des arts, c'était des enluminures, c'était de la louange, c'était de la musique, c'est tout ça qu'ils ont amené. Et donc, ils ont amené les bases d'une culture chrétienne dans toute l'Europe. Mais ça a commencé par des gens qui avaient une espérance qui semblait complètement folle aux yeux des hommes, quoi. Donc ils ont transmis, ils ont préservé tous les. Vous savez que toute l'Europe, à part l'Irlande, avait été bouleversée par les invasions barbares. Donc tout ce qui était livre, tout ce qui était héritage d'antiquité grecque, romaine, tout ça, voilà, brûlé. Mais grâce à ces Irlandais qui avaient préservé toute la culture, les manuscrits qu'ils avaient recopiés aussi. Et quand ils sont revenus en Europe, ils ont ramené l'héritage culturel. Et donc tout ça, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc les monastères irlandais ont envoyé des moines éduqués pour enseigner les populations nouvellement converties d'Europe. Ils étaient connus, écoutez ça, pour avoir fait des disciples parmi les rois, parce qu'ils touchaient directement, ils étaient stratégiques aussi, hein, et pour avoir enseigné les nations. Voilà, un bel exemple. Et donc ça, c'est un livre fameux qui m'inspire aussi sur... En fait, il n'y a rien en Europe de chrétien qui n'ait été l'influence de ces Irlandais. C'est étonnant. Et voilà, et là, c'est chez nous. C'est Murbach, et qui a été donc fondé, inspiré par l'Irlande. Ce n'est pas des Irlandais qui l'ont fondé, mais les moines, les premiers firmins, etc., ont été de cette sève qui est venue d'Irlande. Donc, l'Irlande, ça ne dépendait pas de Rome. Il n'y avait pas de pape. Il n'y avait pas tout ça. Ils fêtaient les fêtes juives. Ils fêtaient Pâques à Pessah, etc., etc. Donc, il y avait une sorte de... Il n'y avait pas d'hierarchie. D'ailleurs, on les traitait un peu de olé olé, parce que c'était des fous, ces gens-là, des fous de Dieu. Hein. Et donc, ces moines irlandais, vous voyez, ils ont inspiré directement, quand on a un peu recherché, il y avait d'ailleurs, c'est intéressant, vous avez un petit groupe à Bergholtzell, un groupe de 5, qui dépendait aussi de cette sève d'Irlande, et qui sont venus à Murbach, avec d'autres, pour établir ce qui a été un lieu de 1000 ans d'adoration et de formation. Donc, je vais vite. L'Europe, c'est quoi? Eh bien, c'est la naissance des universités aussi. Ces universités, c'était les chrétiens qui les ont levées. C'était une idée nouvelle. Mais ils étaient pétris de l'amour de Dieu. Regardez ce qu'un des premiers maîtres à Paris disait. « Rien ne peut être parfait objet de science sans la présence du Christ, Fils de Dieu et Maître. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte la portée de cette phrase. C'est-à-dire que tu peux rien connaître, même scientifiquement, de vraiment bien, de vraiment complètement connaître sans la présence du Christ. Parce que la Bible dit, c'est en le Christ que sont tous les trésors de la science et de la connaissance. Donc, la foi, elle marchait comme une bonne copine avec la science. Vous voyez ? C'est pas des domaines qui se mélangeaient, mais c'est des domaines qui marchaient ensemble. La raison avec la révélation, la foi avec la science, les lettres avec la sagesse de Dieu, etc. Donc voilà, ça c'est l'Europe, ça fait l'Europe. Les étudiants, ils parlaient une langue, c'était le latin, et ils pouvaient aller n'importe où en Europe. Ils avaient des potes partout. Quand ils en avaient marre d'un lieu, ils voulaient un cours plus spécialisé dans un autre, et ils changeaient de nation. Par exemple, à Paris, c'était réputé pour la théologie. Donc voilà, les gens venaient du monde entier, de toute l'Europe, pour passer, faire des études de théologie. Avec des gens comme ça, qui parlent de la présence du Christ, je peux vous dire qu'il devait se passer des trucs. Et voilà la carte de France, la carte d'Europe, avec l'influence de Paris sur toutes les nations. Ça, c'est l'Université de Paris. Tous les noms que vous voyez, c'est des gens qui se sont inspirés de Paris pour aller établir des universités partout en Europe. Vous avez l'Espagne en particulier, l'Italie, et puis vous avez le Royaume-Uni, et puis l'Allemagne, etc. Donc, voilà, l'enjeu, il est là. L'Europe, l'Europe inspirée par Dieu avec sa parole au cœur, parce que toutes les diversités, c'était la théologie au cœur, la connaissance de Dieu, la chose la plus importante, ça fait l'Europe aussi. Et puis l'invention de l'imprimerie, je veux pas tout dire, mais avec Gutenberg, nous sommes en 1450, et là, pour la première fois, la Bible va être accessible partout, dans toutes les, par le peuple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le peuple va commencer à lire la Bible. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont changer de vision du monde. Ils vont changer de vision de Dieu. Ils vont, ça va faire un shift comme ça. Et ça va amener une prospérité, une bénédiction dans tous les domaines. La Bible va influencer tous les domaines. J'ai un ami, une connaissance, je l'avais connu en Allemagne, c'était un professeur d'université en Inde. Donc c'était un hindou le gars. Rien du tout de la civilisation occidentale. Il adorait des tas de trucs, les vaches et tout ça. Voilà. Et puis, il s'est posé la question, mais comment ça se fait que l'Occident soit prospère? Alors notre pays est misérable. Qu'est-ce qui a fait? Donc il a recherché en tant qu'universitaire, et puis il s'est aperçu que la Bible, elle a fait l'Occident. Et elle est la cause des idées de liberté, de dignité. Et il a dit, mais la Bible a façonné l'Occident. C'est la clé de la réussite. Il s'est converti radicalement. Il s'appelle Vishna Mangalwadi. Et il a écrit le livre, pas traduit en français, le livre qui a changé l'Occident. Et ça, c'est le témoignage de cet homme. Donc, cette Bible, c'est pour ça que si vous voulez avoir une autre vision du monde, de la création, du futur, lisez la parole de Dieu. Méditez-la, prenez du temps. Martin Luther, ensuite la réforme, et c'est encore la parole de Dieu qui a touché cet homme. C'est la lettre, c'est pas une révélation qu'il a eue comme ça, ping, mais c'est dans sa recherche de Dieu, dans la parole de Dieu. Il a dit, mais Seigneur, il faut que tu me parles, c'est plus possible. C'était un moine, il se sentait sale. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché Dieu. Des jours, des nuits, jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui et lui révèle la grâce, la justice que Dieu accorde à ceux qui croient, etc. Bon. Mais il y a un moment, il a eu le cri pour les enfants. Et quand il a vu l'état des enfants en Allemagne, c'est là qu'il a eu cette parole de Jérémie. C'est encore, il fallait qu'il la connaisse, la Bible, pour que le Saint-Esprit parle. Et cette parole, mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre, à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants, des nourrissons, des faïences dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Et ils tombaient comme des blessés dans la rue de la ville, ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Et donc il s'est dit, c'est tout simple. Il y a une génération qui crie après le blé et le vin, c'est-à-dire après Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la Bible dans toutes les écoles et dans toutes les universités. Ça a été la réforme qui a touché toute l'Europe. Alors pas trop l'Espagne et un peu l'Italie du Nord, un peu, mais à part ces pays du Sud, ça a été le bouleversement. La parole de Dieu, encore une fois, vous voyez. Et puis donc, la réforme en France, donc je rappelle cette carte qui est à l'entrée, quand je l'ai découverte il y a des années, cette carte de France, des écoles protestantes et des universités, il est bien évident que ça a tout bouleversé. Mais cette carte, elle alimente l'espérance, vous voyez? Parce que quand Dieu dit, je vais rétablir toutes choses, les plus anciens, on va les déboucher, etc., c'est-à-dire que ça, ce qui s'est fait dans le passé, c'est bien de le connaître pour alimenter notre espérance du présent et croire que Dieu, non seulement va refaire, mais va aller encore plus loin. Et donc la vision dont Alana parlait, c'est qu'en 88, on priait pour les écoles et il y a une vision de la France, de l'Espagne et de l'Afrique du Nord. J'ai pas pu, au niveau numérique, si j'étais bon, je ferais une carte de France, d'Espagne et d'Afrique du Nord et je mettrais des étoiles de partout. Parce que c'est ce qu'on a vu dans l'esprit. Et donc, le voyage en Espagne, dimanche, la semaine prochaine, c'est le fruit d'une vision d'il y a 35 ans. 35 ans. Et Dieu n'a pas oublié. Et donc, voilà. Et puis l'Afrique du Nord, je ne sais pas quand ça viendra, j'y suis déjà allé, etc. Mais il y a un temps pour tout. Donc Dieu vous dit, ne lâche rien. Les rêves que tu t'as donnés, écris-les. Retrouve les premiers rêves qu'il t'a donnés. Et commence à prier là-dessus. Parce que Dieu veut réactiver l'espérance. Éduquer ses enfants à Jésus-Christ. Professeur d'université protestante. Oui, ce genre de définition-là, quand on va retrouver dans nos universités cette définition-là, et je crois qu'on aura vécu une sacrée rédemption. Un précurseur de l'Europe, c'est aussi Comenius. Mais là encore, ce grand rêveur, ce grand éducateur, ce pasteur, évêque, théologien, c'est tout ce gars. Il était dans les pays de l'Est, là, l'actuelle République tchèque, et là, il y a eu une guerre des religions. Et là, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, toute sa maison a brûlé, et il a dû se barrer avec d'autres pour sauver sa vie. Et il va sur les montagnes de la frontière, et là, il se retourne et il prie une dernière fois avec ses réfugiés. C'est des frères moraves. Et ces réfugiés, ils reçoivent une vision, une parole prophétique. Nous sommes en 1627, quelque chose comme ça. Et imaginez, dans la neige, ils ont tout perdu, et ils sont là, ils prient, et Dieu qui parle. Paf ! Dans 100 ans, vos descendants, ils iront dans toutes les nations pour l'évangile. Dans 100 ans, on sera plus là, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Et bien, toute sa vie, il s'est mis, on va faire que cette parole s'accomplisse. Un siècle plus tard, jour pour jour, nous sommes en 1727. Les descendants de ces réfugiés, de Comenius, les descendants, ils étaient sur les terres d'un Allemand, un comte qui s'appelait le comte Zinzendorf, qui a accueilli tous ces réfugiés et qui s'est intéressé à leur histoire. Il a retrouvé les écrits de ce gars-là. Il rentre, il réunit tous ces réfugiés. Il a dit, j'ai fait une super découverte. Voilà vos origines. Voilà la vision qui était là. Et là, il y a la Bible, l'histoire nous dit qu'il y a une Pentecôte qui est descendue. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte morave. La première Pentecôte dans le milieu protestant. Voilà, ça a touché tous ces gens-là. Et ils sont devenus des missionnaires pour le monde entier, des frères moraves. Et donc, ils ont établi des écoles, ils ont établi des églises, ils ont évangélisé là où personne ne voulait aller. C'est impressionnant. Donc, il a dit, voilà, le genre de rêveur que c'est. Mais c'est les rêves de Dieu. J'appellerai école parfaite, celle où la lumière de la sagesse éclairera l'esprit des élèves et lui fera saisir promptement toutes choses manifestées, cachées, où les âges et leurs émotions seront amenés à une harmonie universelle et les cœurs remplis, pénétrés de l'amour divin, afin que tous ceux qui auront été confiés aux écoles chrétiennes pour y être imprégnés de sagesse apprennent à vivre une vie céleste sur la terre. Et ça, aujourd'hui, si vous regardez au Parlement européen, Comenius, il y a des projets qu'on appelle projet Comenius, etc. C'est un nom qui est connu, parce que c'est le premier qui a rêvé d'une communauté des nations. Il a tellement souffert de la guerre. Il a dit, mais il faut que les nations se parlent. Il faut qu'elles discutent au lieu de faire de la guerre. Et donc, il a été un diplomate. Il a été en Hollande, aux Pays-Bas, en Angleterre, en France, avec Richelieu, tout ça. Il a travaillé à ce qu'il y ait une communion des nations. C'était son rêve. Il a écrit dessus. Et des siècles plus tard, nous avons les pères fondateurs de l'Europe. Alors là aussi, moi j'ai entendu des niaiseries sur l'Europe, je peux pas vous dire, mais c'est effrayant. Dans le milieu évangélique en particulier, l'Europe c'est le diable, l'Europe c'est Satan, l'Europe c'est les 10 cornes, c'est quand on était 10, c'est les 10 cornes de l'Apocalypse, etc. Mais c'est une aberration, c'est une méconnaissance de l'histoire. L'Europe a été fondée par des hommes qui étaient chrétiens, édins, et qui était animé d'une volonté de réconciliation entre les peuples. L'Europe a été fondée par des gens qui se sont demandé pardon, en pleurant. Ils se sont rassemblés en Suisse avec des Allemands, descendants de nazis et tout ça, tout de suite après la guerre. Et donc, ces gens-là, comme Robert Schuman, Gasperi, Adenauer, en particulier, c'était 3 chrétiens vraiment authentiques, et donc ils se sont dit, mais il faut plus la guerre, il faut arrêter avec ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va mettre en commun la production de charbon et d'acier, parce que c'est avec ça qu'on fait des armes. Donc, on va se mettre ça en commun, comme ça, il n'y aura plus d'armes les uns contre les autres. C'était le début. Mais la vision, c'était beaucoup plus grand. Schuman était un homme de prière. Vous savez qu'il faisait des retraites spirituelles de plusieurs jours, dans le jeûne, la prière, la parole de Dieu. Schuman, hein, il a vécu la prison pendant la guerre, à cause de son patriotisme, si vous voulez. Et donc, il a dit, à quel moment la civilisation européenne a-t-elle reçu son âme ? Quand elle a reçu l'évangile. Aujourd'hui, nous avons une Europe qui a besoin de retrouver son âme, en fait. Et c'est pour ça que l'intercession, à cause de ce passé, à cause de ces fondements, les racines d'une vraie démocratie viennent toutes des enseignements du Christ, dit-il. Le principe d'égalité entre hommes et femmes, ça vient des Écritures. Il ne faut pas s'étonner si d'autres civilisations ne considèrent pas la femme comme l'égale de l'homme. Parce que c'est que dans la Bible qu'on trouve ça. Donc, tu ne peux pas imposer à d'autres une façon de voir qui la tienne. Il faut que les gens soient au contact de la parole de Dieu pour changer leur vision des choses. Et donc, le respect des droits de l'individu, tout ça, voilà. La démocratie sera chrétienne ou ne sera pas. Une démocratie antichrétienne sera une parodie qui plongera dans la tyrannie. Donc aujourd'hui, il y a un glissement, c'est vrai. Il y a du vol. On a vécu 70 ans de paix en Europe parce qu'il y a eu des artisans de paix pour la fonder. Aujourd'hui, Dieu cherche à nouveau des artisans de paix, des gens d'espérance. Après la Seconde Guerre mondiale, tout était détruit, il fallait tout rebâtir. C'était une sacrée... Mais hélas, quelle foi il fallait. Quelques citations de Maurice Schumann pour vous montrer ce père de l'Europe. Aimer son prochain comme soi-même était un principe démocratique lequel, appliqué aux nations, signifiait être préparé à servir et aimer les peuples voisins. Là, quand vous avez une politique internationale basée sur l'évangile, c'est ça qui a fait l'Europe. Comment l'appliquer en politique internationale pour les Français et les Allemands, ennemis habituels, si le christianisme enseignait que les enfants du même Dieu, malgré la race, la couleur, le statut social, la profession, les États devaient être traités comme égaux? La Première Guerre mondiale s'est terminée avec le traité de Versailles qui appliquait le principe de la vengeance, mais la loi universelle de l'amour et de la charité font de chaque homme notre voisin. Et des relations sociales dans le monde chrétien ont été basées sur ceci depuis, appliquées à la communauté des peuples. Le pardon et la réconciliation, même entre ennemis actuels, sont des impératifs chrétiens. L'histoire européenne est profondément enracinée dans l'histoire chrétienne. Coupée de ses racines, l'Europe perdrait ses fondements pour l'égalité, la dignité humaine, la tolérance, la compassion. Ça, c'est une voix prophétique. Et une voix prophétique qui parle encore aujourd'hui. Aimer son prochain comme soi-même. Voilà. Je veux pas aller plus loin parce que c'est... L'Europe doit devenir une communauté des peuples. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Il y a un manque. Ce souffle n'est plus là. Et donc, cette maison de l'Europe... On est appelé à la bâtir. Je me rappelle la vision de David Lee, il y a quelques années, cette maison sur l'Allemagne, la Suisse et la France. Dieu voulait bâtir sa maison. Il veut bâtir sa maison ici, à Josué. Il veut dire sa maison au niveau des trois frontières, mais sa maison en Europe aussi. Et si nous sommes Européens, nous avons un mandat pour ça. Et donc, voyez, tous les fruits de cette Europe chrétienne, et bien voilà, toutes ces choses-là, ça découle d'une vision biblique du monde. Hein. L'état de droit, par préférence aux voies de droit, la notion de personne, les droits de l'homme, la démocratie, la liberté individuelle, la liberté de pensée critique, de science, liberté, la notion de liberté, le respect de la vie privée, la compassion pour les victimes, l'éducation pour tous, garçons et filles, la perception d'une histoire comme orientée, pas toujours cyclique, qui tourne sans arrêt, comme le croient beaucoup les autres. Donc ça, c'est le fruit. Et il y a un homme, Eliot, je termine avec, c'est un Américain, un poète, un auteur, qui, alors un peu sombre sa vision, mais il disait « Je ne crois pas que la culture de l'Europe pourrait survivre à la disparition complète de la foi chrétienne. » Si le christianisme s'en va, toute notre culture s'en va. Vous devrez alors recommencer douloureusement. Et vous ne pourrez pas faire fonctionner une nouvelle culture toute faite. Vous devrez attendre que l'herbe pousse pour nourrir le mouton, afin de donner de la laine avec laquelle votre nouveau manteau sera fait. Vous devrez passer à travers beaucoup de siècles de barbarie. Nous ne pourrions pas vivre pour voir la nouvelle culture, ni même pour nos petits, petits, petits-enfants. Et si nous le pouvions, pas un d'entre nous n'y serait heureux. Donc, lorsqu'il dit la disparition complète, merci Seigneur. Elle n'est pas disparue, cette foi chrétienne. Elle est devenue plus radicale et toute la foi superficielle s'en va. Les gens ne tiennent plus avec une foi superficielle, mais une vraie foi, elle fait le travail. La dernière diapo, notre réponse, Dieu nous dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous, pour son Église. Réparer les brèches Encore faut-il les connaître. Et puis rendre le pays habitable. L'onction de Néhémie, il voit Jérusalem détruite. Il nous en a parlé dans le séminaire avec Chris. Et l'idée, c'est que devant ces murailles, il y a une intercession. Il y a une souffrance. Il y a une... Voilà, Seigneur au secours. Et puis cette intercession, ça produit de l'action. De rebâtir. Voilà, bâtir sur des bonnes fondations avec de l'or. Espérer contre toute espérance, comme Abraham, parce que tu as reçu l'héritage d'Abraham. La notion d'amour, là je rappelle la vision de Anne un jour, les empereurs, les manchots empereurs, qui devaient se réunir, et c'est dans ce blizzard, dans ce froid, ils étaient là les uns contre les autres, et au milieu d'eux, au centre du cercle qu'ils formaient pour se réchauffer et se protéger du vent, il y avait les œufs qui étaient couvés pour les nouveaux manchots. Et bien ça, c'est une belle image de l'Église. Rassemblée dans un temps qui est froid au dehors, on se rassemble, on se tient chaud, mais le but, c'est pas de se tenir chaud les uns les autres. Le but, c'est d'enfanter des projets de Dieu, d'enfanter des choses nouvelles. Voyez. Donc l'amour, la famille, la communauté, enseignation et prier pour nos autorités. Moi, je me suis rendu compte que, en fait, prier pour les autorités en France, ça va relativement. Mais prier pour les autorités européennes, j'ai mis du temps, hein, et je ne les connaissais pas. Donc je suis allé sur le site internet, qui sont les députés français? Il y en a 81 quand même, hein. 81 députés français, de tout parti politique. Mais il y en a qui défendent sacrément nos valeurs, hein, et qui sont tout seuls. Hein. Et je veux dire, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Et voilà, je termine Éphésiens 2, qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a une espérance. Ton appel individuel, il y a une grande espérance qui s'attache à ton appel. Et à notre appel en tant qu'Église aussi, une grande espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Il y a une grande gloire d'héritage pour nous. je pense à l'apôtre Paul, le mendiant qui dit hey, « Donne-moi du fric, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. » Paul, vous voyez, l'apôtre Pierre, « J'ai pas d'or, j'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, ben, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi maintenant. » Donc, les richesses, c'est pas toujours ce qu'on croit. Mais la richesse, c'est le Christ en nous, et cette puissance de résurrection, voyez, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors, simplement prier, Seigneur, merci de tout à fait de nous, des Européens, on ne l'a pas choisi. Nous vivons en Europe, et Seigneur, dans ces temps d'ébranlement, moi je te prie de raviver notre espérance, raviver notre foi. Ravivez l'amour, Seigneur, pour chacun de nous. Et que nous soyons des artisans, des bâtisseurs, Seigneur, dans ce temps, Seigneur. Alors, donne-nous de voir au-delà, que les pierres qui bouchent notre vision d'espérance se tombent, se sont roulées ce matin. Et Seigneur, nous accueillons le roi de gloire, le Christ, l'espérance de la gloire qui habite en nous. Seigneur, merci. Nous ne sommes pas nombreux, nous ne sommes pas puissants aux yeux des hommes, mais Seigneur, tu fais de nous des rêveurs de Dieu, des rêveurs de tes rêves à toi, pas ceux qu'on se fabrique, mais ceux qu'on reçoit de toi, parce que tes rêves, eh bien, tu vas les accomplir. Tu l'as déjà fait et tu vas encore le faire. Alors Seigneur, affermis tout ça dans nos vies, à nous tous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Saint Josué, il avait la vision de Dieu comme le Dieu de la terre. Josué 1, 2, 3.